Salut les smarties, salut les smarts, salut le peuple de catch-up. Bienvenue sur votre podcast qui transpire le catch, surtout l'été, à chaud good. On est aujourd'hui pour l'Euro du 19 août. Ça se passe à Saint-Paul, Minneapolis. Et je suis Chris, vous m'avez peut-être connu, et je suis tout seul. Et oui, moi aussi, chacun son tour. En fait, toute la bande est partie en vacances. Et c'est tant mieux pour eux, de toute façon. Donc, je me tente dans un trip solo. J'espère que vous serez, indulgent avec moi et que vous pardonnerez mes écarts de langage ou mes énervements ou mes satisfactions. Bon, comme dirait Raphaël, quand il n'y a pas de partenaire avec nous, du coup, on est seul maître à bord et on a tout le temps raison. Donc, partez du principe dans cette review que j'ai tout le temps raison et puis vous allez voir, ça va bien se passer. Donc, on est là pour l'Euro du 19 août, donc comme je vous l'ai dit, à Minneapolis, et la patrie de Brock Lesnar, la patrie de Saint-Paul. Saint-Paul, université étudiante bien connue pour une émeute qui avait eu lieu en 1969 en pleine guerre du Vietnam, où malheureusement des étudiants avaient été assassinés par l'État, mon Dieu, et ça avait provoqué une crise sans précédent aux États-Unis. Mais bon, là du coup on est en 2019, ça va un peu mieux on va dire, et on se retrouve pour commenter la WWE qui est donc de passage avec son grand Barnum. Voilà, alors sur quoi ça a attaqué ce Raw? Ça a attaqué avec un Roman Reigns. Alors oui, on va commencer par les commentaires, parce que votre grande joie et à la mienne également, on a eu droit à Corey Graves qui était absent. Et du coup, l'invité au commentaire, c'était notre ami Jerry Lawler. Jerry Perver Lawler, voilà, qui était donc au commentaire et qui annonce d'emblée qu'il va avoir une grosse interview avec Sasha Banks. Donc, on est avide de voir ce qui va se passer entre les deux. Alors, ce Raw, il ouvre véritablement avec Roman Reigns qui débarque sur le ring avec les commentaires de notre ami Lawler. Et voilà, il revient, tout a l'air il semble plutôt en forme malgré les multiples tentatives d'assassinat qu'il y a eu sur sa personne ces dernières semaines. Et qui débarque sur le ring? Et ben notre jobber to the star préféré, Dolph Ziggler est là, quoi. Voilà, il vient confronter l'ami Roman Reigns, nous faire une bonne, promo de heel, hein, puisqu'il chope une bonne hit avec des gros you suck dans tous les sens du public de Minneapolis. Donc ça part plutôt pas mal, quoi. Et voilà, il nous fait un petit peu référence à tout ce qui s'est passé ces dernières semaines avec lui, avec Shawn Michaels, avec Goldberg, qu'il a pris les Spears de Goldberg, mais qu'il est toujours capable de s'en relever. Voilà, et puis finalement il attaquera vicieusement le Roman Reigns en balançant un super kick. Mais notre ami Roman, il s'en laisse pas compter, il se relève sous les chants de Goldberg du public et puis il y va, quoi. Et donc on a notre premier combat de la soirée entre Roman Reigns et Ziggler. Donc écoutez, je vais pas vous faire un play-by-play des combats, mais ce combat-là a été relativement rapide, ça a plutôt bien donné, comme d'habitude, du bon selling de notre ami Dolph. Le Roman égal à lui-même, hein. Moi je le trouve personnellement toujours pas mal protégé dans le booking et avec des combats jamais très très longs, et moi j'ai toujours mis en question le fait que sa santé était peut-être pas au top du top, et que c'est pour ça que pour l'instant il se contente des feux de mid-card ou les dernières interactions avec Bryan et Rowan, mais globalement il est plutôt pas mal, je le trouve plutôt en forme, il est plutôt fit, mais je pense qu'il continue à être préservé. Sans surprise les amis, vous verrez que Roman Reigns gagne ce combat avec un spear évidemment pour ramener un hommage à Goldberg, tribute to Goldberg avec un gros spear pour finir la partie. Et du coup, on a une victoire clean de notre ami Roman Reigns. Ensuite, on enchaîne avec quoi ? Ensuite, on enchaîne avec Becky Lynch. Becky Lynch qui passe sur un petit caméo là, vite fait là, où elle va parler du passage à tabac qu'elle a pris par Banks la semaine dernière. Donc voilà, hein, vous connaissez les habits, les traditionnels caméos de la WWE, parce que Becky Lynch fires back, voilà, fires back at Sasha, et c'est chaud. Donc on se dirige vers une feud Sasha Banks-Becky Lynch qui pourrait être globalement assez intéressante. Moi, je suis assez client. Becky, elle est dans son rôle de championne, là, et Sasha Banks se présente comme une espèce de heel ultime dans la division féminine de Raw, et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. On verra ce que ça va donner au niveau in-ring, mais en tout cas, là, c'est le lancement, on va dire, depuis deux semaines, là, de cette feud officielle entre les deux femmes, et je suis plutôt preneur. Donc, à suivre, on verra bien ce que ça donnera, cette affaire. Allez, on enchaîne. Après ce caméo de Becky, on a le droit à Jerry Lawler qui est de retour sur le ring pour son King's Court. Voilà, il nous commence à nous faire de la pub du King of the Ring qui va donc commencer voilà, en fanfare. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je fais partie des gens qui sont assez satisfaits. Moi, je réclame toujours plus de compétition à la WWE et je pense que souvent, dans le cadre de build pour les pay-per-view, on a souvent quelques soucis parce que il y a justement pas assez de matchs compétitifs, pas assez de mise en jeu sur des matchs de number one contender, etc. Bah là, pour le coup, on a un vrai tournoi avec le King of the Ring, avec 16 catchers et ça va se lancer cette semaine. Donc du coup, une fois que notre ami Lawler a teasé tout ça, on se retrouve avec un espèce de problème technique dans la salle que vous commencez à connaître, puisque les lumières commencent à se couper dans tous les sens, des bruits chelous apparaissent derrière notre écran, devant notre écran, partout, et qui nous envahissent, qui nous font très très peur, puisque on se retrouve avec The Fiend. Et oui, The Fiend est là, The Fiend est venu se farcir pervers Lawler, et ça, je vous avoue les amis que j'en étais très satisfait. Donc le Fiend apparaît toujours dans sa tenue habituelle. Hein. Pour l'instant, là, il n'y a pas de changement sur le personnage. Il reste voilà, menaçant et terrifiant. Et il s'attaque au Fiend en lui portant le Mandible Claw. Lawler disparaît. Les lumières se rallument. Lawler est au sol. Il ne disparaît pas encore, mais il va bientôt disparaître pour notre plus grande joie pour le reste du show. Et il est aidé d'ailleurs par les officiels. Et un moment assez drôle, j'ai trouvé dans ce segment, puisque tout le public de Minneapolis chante « Yo-oui, 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 yo-oui ». Et j'ai trouvé ça très drôle. J'espère que vous partagerez ce moment de scène rigolade. Voilà. Et donc du coup, le personnage de Bray Wyatt hein, continue son petit bonhomme de chemin. Après le premier combat en pay-per-view, il continue à avoir des segments weekly après weekly. On est bon là hein, avec ce personnage. Hein. Moi, je vous avoue que je suis carrément fan Peuple de Catch-Up. Là. C'est quand même là, c'est une des plus grosses créations de la WWE depuis un paquet d'années. Quoi. C'est vraiment... Moi, je suis vraiment, vraiment agréablement surpris de comment ce personnage, non seulement il est traité, mais comment il évolue au fur et à mesure des semaines. Je trouve ça très bien qu'il attaque en fait un peu tous azimuts. Maintenant, on va voir un peu qu'est-ce qui va se passer en termes de in-ring. Comment après avoir géré ce premier combat face à Finn Balor, et ben comment il va être pour la suite, qui va affronter véritablement, dans quelle rivalité il va être lancé. Donc ce personnage, il a aussi ces qualités-là, c'est qui nous amène vers plein de questionnements, plein de pistes. Donc moi, je suis vraiment, vraiment, je suis fan. Et pour paraphraser mon collègue Giscal, effectivement, s'il déconne pas avec ce personnage-là, ça peut être une forme d'Undertaker des années 2020, quoi. Donc je trouve que c'est un des trucs les plus excitants qu'il y a à la WWE en ce moment, et vraiment c'est un passage que j'attends. Alors effectivement, on peut se plaindre sur le fait que c'est court, que à chaque fois on nous met un petit peu la même chose puisqu'il il attaque quelqu'un du roster, un officiel, un commentateur, un catcheur. Mais ce mystère en fait qu'entoure ce personnage, moi, me plaît bien et j'espère que la WWE va continuer dans ce sens-là. Allez, on continue. Donc du coup, bah, Jerry Lawler, il est out. Hein, donc on fait venir un mec que Ringside doit bien connaître puisqu'on fait venir un commentateur de 205 Live et apparemment qui est sur NXT UK. Je vous avoue que je suis NXT UK, que les résultats et 205 Live un peu pareil. Donc je connaissais pas ce grand mec là, un peu filiforme là, mais du coup tellement content de voir Lawler partir qu'ils auraient pu me mettre, je crois à peu près n'importe qui, mais que j'aurais marché dans la combine. Donc Vic Joseph, et ben tant faute de Corey Graves, Vic Joseph c'est parfait. Voilà. Et du coup on attaque sur du combat de catch puisque on a un tag team match entre Ricky La Belleville, notre ami Ricochet, Le Miz, qui affronte Baron Corbin, qui est de retour sur le ring, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, et Drew McIntyre. Voilà, ces deux gars-là sont de nouveau dans la place, comme dirait l'autre. Et du coup, ça nous fait un petit match tag team pas mal, une petite ambiance bien comme il faut au niveau du public. Je trouvais ça relativement sympa, le public était bien, bien chaud. Les deux faces sont bien over, ce shop light qu'il faut. Du coup, on a un combat plutôt bonne qualité. J'ai plutôt apprécié. Et avec tous les moves qui vont bien. Et au grand dam de Giscal et de Ringside, et ben Ricochet va remporter la partie grâce à un recoil. J'ai oublié qui est-ce qu'il a piné, mais c'est bien Baron Corbin. Ouais, c'est bien Baron Corbin qui prend le tombé. 1, 2, 3. Victoire des deux hommes chauds quand même, hein. Le Miz, bon là on va dire que ça fait plusieurs années, mais là Ricochet sur cette année 2019 il est au taquet, quoi qu'en disent ses détracteurs. Et du coup, ça nous a offert un bon combat, un bon tag team match. Donc, pour moi, ça a été mission remplie, ce match. Derrière, on a une vidéo d'un Hall of Famer avec le Booker T qui vient nous faire un petit tease, lui aussi, du King of the Ring, nous donner ses favoris, donner aussi son avis sur l'attaque du film. Son analyse, elle est vraiment formidable, puisqu'il nous dit tout simplement que Jerry Lawler est au mauvais endroit, au mauvais moment. Merci, madame, on fait les valises et on s'en va. Du coup, on se retrouve avec son favori, et son favori pour lui, c'est Drew McIntyre. Alors, je voudrais pas porter la poisse à Drew, parce que moi aussi, j'en faisais un de mes favoris. Mais maintenant que ça a été teasé en direct par Booker T, j'ai un peu peur sur les chances de Drew McIntyre de gagner le King of the Ring. Donc, on verra, ça sera un nouveau test. Alors, du coup, on arrive dans la deuxième heure. Et là, la deuxième heure, elle attaque avec notre ami AJ Styles. Et le phénoménal, il va rencontrer ni plus ni moins que Braun Strowman, quoi, le monstre parmi les hommes. Et donc ça, grosse surprise, hein, moi je ne m'attendais pas du tout pour le coup à ce qu'on ait un match entre ces deux-là, et voir Braun Strowman dans la course au US Championship, c'était assez surprenant. Donc du coup, AJ Styles, il vient quand même pas tout seul, il vient avec Luke Gallows et Anderson, et les aussi sont présents donc, au bord du ring. Donc ça s'annonce quand même relativement boom, je crois que Gallows colle un gros gros super kick, après il y a grosse attaque des aussi sur Braun Strowman, et du coup victoire de Braun Strowman par disqualification fatalement, mais heureusement Seth Rollins qui surgit du diable vauvert vient nous sauver l'ami Braun Strowman. Est-ce que vraiment Braun Strowman avait besoin d'être sauvé, on saura jamais, mais en tout cas le Rollins est là, et finalement il se serre la main, et on va dire que Braun Strowman sert la main de manière suffisamment significative pour dire que le Seth Rollins, il l'a aussi dans sa ligne de mire. Et ça va se confirmer par la suite. Parce que si vous suivez un peu de tout ça, on va dire que Braun Strowman nous a montré quelques velléités d'envie de la ceinture de Seth Rollins. Donc est-ce qu'il va finalement être balancé dans la title picture suprême là, ça va être intéressant de voir ça pour la suite, quoi. Et on arrive justement dans les coulisses, avant le premier match de King of the Ring officiel qui va débuter. Finalement, on retrouve Rollins et Strowman dans le locker, du côté du locker room, du côté des vestiaires. Et ils se causent et tout ça. Et là, grosse surprise générale, Seth Rollins propose un nouveau match ce soir à Braun Strowman. Et il lui propose carrément de relever le défi pour les championnats par équipe d'Euro. Donc, Strowman, il répond de manière à la Strowman, quoi. Il fait mais qui visiblement signifie oui. Donc du coup, pas de problème, c'est parti, on nous book directement un match Raw Tag Team Championship, les amis, quoi, entre les OC et entre Rollins et Strowman, voilà. Donc ça va être dans la suite du show. Et du coup, on retourne sur le ring, c'est reparti, et voilà, on a le King of the Ring qui débute enfin officiellement, quoi. Donc il y a 16 combattants, je vais pas vous refaire tout le tableau, mais du coup, on a un tableau de Raw, un tableau de SmackDown, et ça va se dérouler sur les différents weekly et avec le point d'orgue, la finale qui aura lieu au pay-per-view Clash of Champions le 15 septembre. Là, vous savez tout, hein, vous pouvez pas le rater, quoi, d'accord ? Alors, maintenant, on va pas rater, c'est le Samoa Joe versus Cesaro. Alors là, déjà, moi, je dis belle affiche, je dis beau geste. On a le droit à un super combat, là, pour le coup, pour ce premier combat du King of the Ring. Ah, Samoa Joe, Cesaro, je vous avoue que quand ça a débuté, en fait, j'avais du mal à savoir lequel des deux allait terminer vainqueur de ce match-là. Genre, Cesaro, il a tellement de mal à percer, à aller plus haut, à briser le plafond de verre pour aller vers les ceintures suprêmes ou vers les gros titres, que j'aurais été quand même content de le voir continuer loin. Et puis, Samoa Joe, c'est la menace du roster depuis quand même quelques mois maintenant. Bon, souvent bien placé, mais jamais véritablement gagnant. Et puis, mais qui reste de toute façon une menace permanente et qui fait peur à tout le monde. Donc, ça tombe bien. Donc, ça nous envoie un match. Je crois que même Cesaro, d'ailleurs, pendant le match, a beaucoup de mal à poser son Cesaro swing sur le Samoa Joe, tellement l'autre, il est balèze et il est master et qu'on s'en sort pas, qu'on n'arrive pas à en faire le tour du Samoa Joe. Et du coup, encore une fois, un bon petit combat entre les deux. C'est Samoa Joe qui pose son coquin à clutch et qui finalement se qualifie pour les quarts de finale du tournoi. Donc du coup, Samoa Joe, il est dans la partie de tableau de Ricochet ou de Drew McIntyre qui vont s'affronter au prochain tour. Donc quoi qu'il arrive, déjà, on aura une deuxième affiche là, Samoa Joe, Ricochet ou Samoa Joe, Drew McIntyre, qui devrait être pas piqué des verres, les amis, quoi. Donc en tout cas, moi, je trouve que ce lancement de King of the Ring, il est plutôt pas mal. Ça va donner du rythme dans les shows, et ça, c'est dans les weekly, et ça c'est super intéressant. Donc, moi, je suis toujours client de ce genre de trucs. Voilà, les tournois, les matchs de number one contender, les matchs pour placer les catchers dans la carte, tout ça, moi, c'est des choses qui m'intéressent. Donc, plutôt satisfait de ce premier match de King of the Ring. Voilà, donc, la suite continue, et la suite, c'est le 24-7. Alors là, attention, bon. Je sais bien que 24-7 n'enthousiasme pas les foules. C'est Elias qui est le champion 24-7 à l'heure actuelle. Il est un champion, on va dire, rigolo. Poser des intros comme il sait les faire. Il garde pour l'instant tout l'attirail de son personnage, sauf qu'il a rajouté cette ceinture en plus, quoi. Il est poursuivi pas mal par Drake Maverick qui continue, lui, à croire qu'il va essayer de réussir de piner Elias. Et c'est un peu compliqué, quoi. Il y a Trousse aussi qui est dans les environs. Notre ami Elias qui est sur le ring, qui veut faire un Farewell Musical Performance, est interrompu. Et c'est Ertrousse qui se dévoile en fait sur le ring alors que les lumières se rallument, avec un arbitre bien évidemment. Et il tente de tomber, il tente des petits paquets, mais pas de chance. Et Elias se relève. Il a beau lui mettre des coups de pied en ciseaux, ça marche pas non plus, quoi. Il essaye deux fois, je crois. Et il essaye d'attaquer avec la guitare, mais pas de chance. Et Elias, il a des bonnes jambes. Il réussit à quitter le ring et il s'en va avec le titre 24-7, quoi. Donc, voilà, le titre 24-7, alors là, qui est plus tout à fait dans la même configuration que pendant que Maverick ou Trousse se le partageaient. Et avec un Elias qui est présenté plus fort, je crois que c'est... Je pense que là, pour une fois, on a un personnage sur cette ceinture-là qui est un petit peu plus costaud que les autres et qui va peut-être pouvoir garder le titre de manière pérenne. Mais bon, il finira bien comme les autres par se faire scrouer. C'est clair que ça va arriver d'ici peu. Mais pour moi, en fait, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, Elias me semble plus solide et plus difficile à piner que ce que c'était jusqu'à présent, quoi. Donc, on va voir si ça développera des choses intéressantes sur le 24-7. Allez, on continue, on est lancé avec Rey Mysterio, Booyaka. Et oui, il est là en interview, il est avec Charlène Caruso. Et voilà, il vient nous raconter, il nous parle de sa carrière, il nous parle de ce qu'il a accompli, de tout son entraînement, qu'il a gagné plein de thunes, qu'il a eu une carrière magnifique, une famille magnifique, qu'il a rencontré des gens magnifiques. C'était magnifique, quoi, la carrière de Rey Mysterio, et c'est pas un mensonge que de le dire. Mais voilà, apparemment en ce moment il est un peu en mode dépressif quand même, il est un peu en mode Captain Lexomil et il a du mal le Ré-Ré, quoi, là ça va pas bien, quoi. On sent qu'il est pas très bien, il est au bord des larmes. D'ailleurs il a pas mis de lentilles comme il met d'habitude sous son masque. On sent qu'il est au bord du gouffre, quoi, là, et que il nous annonce, il dit qu'il va enlever son masque, qu'il va laisser la nouvelle génération de superstars faire son trou sans lui. Que voilà, et tout d'un coup le geste incroyable pour un luchador, il met les mains sur son masque et il fait mine qu'il va enlever son masque, le Ré-Ré, et là bim, qui débarque le fiston Dominique. Alors le fiston Dominique, il vient pour empêcher son père de faire ça, et il lui demande que non, c'est pas possible, tu peux pas prendre ta retraite, il faut que tu restes à la WWE, il faut qu'on fasse équipe ensemble, c'est ce que t'as toujours dit pour mes débuts, voilà, quoi. Donc le fiston, il y va avec la corde sensible, avec Popa, et puis ça marche pas mal, parce que gros câlin des familles, et puis il lui dit qu'il va lui faire pour lui, parce qu'il l'aime, et puis il le prend dans ses bras. Enfin voilà, on a une magnifique storyline familiale, entre père et fils Rey Mysterio. Donc c'est assez ça peut être émouvant, hein, pour certains, ça peut peut-être être un peu ennuyeux pour d'autres. Voilà, moi je marche relativement au pathos parce que je suis un papa, et du coup c'est ce truc là ça marche sur moi. Après, pour la petite histoire, sachez quand même que Dominique, avec un père lutteur qui a toujours vécu dans ce monde là dans cet univers là C'est quand même un gamin qui est en train de se préparer sérieusement, qui s'est entraîné dans différentes écoles, dont celle de Landstorm. Et je pense qu'il faudra voir, il est beaucoup plus grand que son père, beaucoup plus massif. On va voir un peu quel genre de catcheur ça va être. Mais je pense que fatalement, à un moment ou un autre, on va avoir Dominique Mysterio quelque part à NXT, ou quelque part peut-être même en tag team avec son père, qui sait, quoi, dans le main roster, on sait pas, quoi. Mais ça peut nous emmener sur un truc pas mal, c'est à suivre. Allez, ensuite on retourne sur le ring, et là, On a les Tag Team Champions de SmackDown qui sont là, les New Day, et qui nous affrontent les Revival. Voilà. Alors là, je vous avoue que sur le coup, quand ça a commencé, j'étais un peu étonné. Je ne voyais pas trop ce que les New Day venaient faire là. Je pensais qu'il y avait peut-être à faire autre chose avec la Tag Team Division de Raw, parce que la division rouge par équipe, elle se porte plutôt bien. Et ça fait plusieurs semaines qu'on a des bons combats, qu'il se passe des bonnes choses, qu'il y a un... Et du coup, j'étais assez surpris de ce combat-là. Je voyais pas trop ce que ça venait faire. Et puis, en suivant le déroulement du combat, j'ai bien compris ces salopios de la WWE où ils voulaient en venir. Puisque voilà, tout simplement, l'histoire, c'était que il y avait Orton qui traînait, il y avait Kofi Kingston qui traînait, il y avait tout ce beau monde qui traînait, et qui donc était dans le, et tous présents. Et ça nous a envoyé, par contre, une fin de match assez folle, puisqu'il y a une DQ provoquée après un RKO d'Orton. Kofi qui vient faire le sauvetage, qui s'attaque à Orton et qui va aussi se battre avec les Revival. Du coup, Orton va placer un RKO des familles de nouveau. Et Kofi Kingston se retrouve au sol. Et Orton le maintient, le prend par les couettes et lui fait assister à un horrible massacre du genou de Xavier Woods par les Revival, quoi, dans une prise absolument infernale. Et donc le pauvre Kofi Kingston, là, il est, que vous dire, quoi, il est détruit, quoi, psychologiquement. Cet homme n'est plus qu'une loque. Et d'assister à l'horreur du Shatter Machine modifié des Revival, c'est un truc que ne pourra pas supporter, je pense, Kofi. Ça va être très très dur pour lui par la suite. Je pense qu'il avait rendez-vous avec le psychiatre, d'après les informations, en sortant de ce segment, et on le comprendra, le pauvre Kofi. Du coup, on se retrouve avec une vraie idée là, contre 3 New Day versus Orton Revival. Orton en chef de bande, c'est plutôt pas mal. Les Revival sont des catcheurs bien vicieux comme il faut, et du coup ça nous fait un espèce de petit clan. Je ne sais pas s'ils leur donneront un nom à ce clan, à ces trois-là, ou si ça restera une alliance de circonstances. Mais en tout cas, du coup, ça donne des bonnes interactions, ça donne des segments bien bien intenses. Et encore une fois, je suis plutôt client. Alors vous allez dire, depuis le début de ce rôle, Chris, il est beaucoup client. Et bah ouais, à ma grande surprise, ça va, je trouve qu'il y a du rythme et que jusqu'à présent, le rouge se passe plutôt bien, quoi. Donc voilà, on termine sur un tag team match avec un segment avec Randy Orton, et on attaque direct avec un caméo avec Sasha Banks. Sasha Banks, elle est en duplex avec Michael Cole, et voilà, qui va lui faire une interview, et finalement une interview qui sera assez courte, qui est assez inintéressante pour le coup, puisqu'elle ne répond quasiment pas du tout à Becky Lynch qui avait parlé précédemment. Et elle prend le parti de nous parler de ses cheveux. Voilà, et donc que pour elle, le bleu, c'était la couleur qu'il fallait, la couleur du moment. Donc voilà, Sasha Banks est devenue bleu. Michael Cole essaie quand même de faire de son travail de journaliste de haute précision et lui demande, mais pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir fait les cheveux comme ça? Pourquoi bleu? Il demande des explications, le Michael Cole. Et puis Banks, elle lui répond juste, you're welcome. Et elle enlève son micro et elle se casse. Voilà, puisque c'est que ça, je m'en vais. Ok, Sacha, bon, alors là je vais vous dire, voilà le premier truc d'Euro qui pour moi est passé vraiment pas vraiment très très bien, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette promo complètement conne? Donc là j'ai eu un espèce de Diva Revival, vous voyez, là je me suis revu quelques années en arrière là, et voilà. Donc là on nous a fait une promo d'une femme qui nous parle de ses cheveux. Et bien écoutez les amis, je vous laisserai donner votre avis sur ce merveilleux segment de Sasha Bex. Derrière on a un match de tag team féminin et avec nos championnes Alexa Bliss et Nikki Cross, et qui affrontent Fire and Desire, en l'occurrence Mandy Rose et Sonya Deville. Alors je vais vous donner mon avis très sincère, je peux pas dire que j'ai kiffé des masses ce match. Mandy Rose, je la trouve, elle est tellement mauvaise sur le ring. Elle a, à part son coup de genou qu'on va dire qu'elle réussit plutôt pas trop mal, mais globalement son moveset c'est une catastrophe, et pour moi Mandy Rose est pas au niveau. À la rigueur, dans le ring, je préfère quand c'est Sonya Deville qui est là, quoi. Sonya Deville me paraît un petit peu plus impressionnante, quoi. Et bon, on a un combat qui est à mon goût moyen, et voilà, qui m'a pas transcendé. Ça se finit avec un neckbreaker de Nikki Cross, quoi. C'est Deville qui malheureusement prend le pin. J'aurais aimé que ça soit Mandy Rose un peu, la histoire un peu qu'on la charge. Mais non, même pas, elle évite même de prendre le pin, Mandy, quoi. Donc elle est vraiment trop over auprès de Corey Graves, auprès de la WWE. Donc voilà, donc écoutez, match sans intérêt, si vous regardez Raw, vous avez le droit de fast-forwarder, je vous donne mon aval. Allez, on enchaîne avec encore un petit segment vestiaire, avec Rollins et Braun Strowman qui parlent de ce qui va se passer ce soir, etc. Et puis, bah, il y a la ceinture de Rollins, de champion universel, qui est derrière. Et Braun, il l'a regarde quand même avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insistance. Et le Rollins, il est malin parce qu'il lui dit, mais tu vois, ce soir-là, si on gagne le championnat par équipe, toi aussi, tu vas ressortir avec de l'or. Tout ça, ça va être plutôt, plutôt sympa. Donc, il essaye de bien de motiver, de caresser dans le sens du poil le monstre. Et bon, ça marche pas mal parce que de toute façon, le monstre, il a tout intérêt à venir avec Rollins pour tenter d'aller chatouiller de la ceinture par équipe. Mais bon, il regarde avec insistance le titre universel et de toute manière, quoi qu'il en soit, on va avoir un moment ou un autre... une intervention de Braun Strowman vis-à-vis du titre suprême, n'en doutons pas. Allez, on retourne dans le ring, c'est reparti le King of the Ring. Alors là, on a un Cedric Alexander versus Sami Zayn, encore une fois, comme le Samoa Joe Cesaro. Moi, c'était un match sur lequel j'étais sans favori particulier. Je pensais que ça pouvait être un truc de bonne qualité et assez long. Et en fait, ça n'aura pas été le cas. Ça a été un match assez rapidement plié par Cedric Alexander. Eh ouais. Qui va gagner ce match face à Sami Zayn. Alors là, je vous avoue, je ne vais pas trop mouiller parce que je vous avoue que je ne comprends pas trop le traitement de Sami Zayn à la WWE. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il n'est pas en forme? Est-ce qu'il n'est pas dans les petits papiers des officiels? Qu'est-ce qui fait qu'il est totalement évacué comme ça dans ce rôle du King of the Ring? Il ne fait que perdre notre ami Zayn, quoi. Je crois qu'il n'a pas touché une seule ceinture depuis son arrivée dans le main roster. Et c'est vraiment triste. Et hormis ses coups d'éclat avec Kevin Owens, ben, il est traité vraiment comme un simple jobber. Et j'ai un peu peur qu'il fasse sa carrière comme un simple jobber à la WWE. Donc ben voilà, il est sorti dès le premier tour par Cedric Alexander, qui en ce moment, lui, par contre, profite un peu d'un petit momentum. On peut dire que Cedric Alexander, en ce moment, il est un peu dans une bonne vibe. Ça s'avance pas mal. C'est plutôt de bonne augure, on va dire. Mais j'ai du mal à suivre ce qu'ils vont faire avec Sami Zayn et Cedric Alexander du coup avance vers les quarts de finale du King of the Ring. Donc bah écoutez, félicitations à lui, tant mieux pour lui. Et puis on verra bien ce que va donner la suite pour le pauvre Sami. Mais je suis triste hein, quand même de voir son traitement à WWE. J'avoue que c'est un catcheur que j'aimais en indie et le voir comme ça se passe pour lui en ce moment, c'est pas une bonne nouvelle à mon goût. Allez. On enchaîne avec nos consultants de couloir. Vous savez qui c'est les consultants de couloir, Haro ? Nos consultants de couloir, c'est les Street Profits. Donc, ils viennent toujours avec du popcorn. Ils nous font des prédictions pour le King of the Ring. Ils nous font voilà, tout un tas de prédictions. Voilà, ils nous font beaucoup de blabla. Moi, je vous avoue que j'aime pas trop le personnage des Street Profits à Haro. Ça peut retirer un sourire, mais voilà, sorti de ça, on peut pas dire que c'est génial. Je les préfère beaucoup dans leur rôle à NXT. Ils sont beaucoup plus intéressants. En tant que consultant de couloir de Raw, ça me laisse relativement indifférent. Donc voilà, donc allez, après on enchaîne. Natalia, on retourne avec les femmes. Là. Et parce que les femmes, elles ont pas mal de trucs à régler. Et en l'occurrence, Natalia qui a donc le bras gauche cassé. Et ça, c'est terrible, quoi, suite aux dernières attaques de Banks, etc. Donc, ils nous ont refait, alors vous allez certainement pas y croire ou justement vous allez que trop y croire, mais ils nous ont refait le coup de l'attaque familiale de avec Natalia, voilà, où Sasha Banks, elle lui souhaite d'aller en enfer pour saluer son père de sa part. Donc, pour vous dire jusqu'où ça va la rivalité là. Donc Sasha Banks est donc intervenu pendant le caméo de Natalia pour la passer à tabac, lui place son bras cassé dans un tiroir qu'elle referme violemment pour lui casser à nouveau le bras. Donc la pauvre Natalia s'est fait casser le bras deux fois en deux semaines. Je vous avoue quand même que ces filles, elles ont les os solides hein, parce qu'il faut quand même tenir le choc, quoi. Et Sasha Banks part donc sur cette formidable phrase où elle lui souhaite d'aller en enfer pour saluer son père. J'ai trouvé ça charmant et totalement hors de propos. Je suis même étonné que Natalia elle accepte du booking comme ça, quoi. Ça me paraît pour moi c'est un a little bit too much et ça m'a pas vraiment emballé, quoi. Voilà, bon, après les commentateurs d'ailleurs, je sais pas s'ils ont été beaucoup plus emballés puisqu'ils ont totalement squeezé ce qui venait de se passer et direct ils ont attaqué en donnant des nouvelles de Xavier Woods en annonçant qu'il partait à l'hôpital le plus proche suite à son brisage de genou par les Revival, quoi. Donc, comme quoi, hein, même le WWE, des fois, elle fait un truc, mais elle l'évacue le plus vite possible, quoi, parce que comme ça, elle se dit, bon, allez, on passe à autre chose, quoi. Et justement, on passe à autre chose, justement, puisqu'on passe au main event. Et donc, le main event, c'est ni plus ni moins que le WWE Raw Tag Team Championship, et c'est l'équipe de Braun Strowman et Seth Strowman qui affrontent les aussi, qui sont donc les détenteurs du titre. Et alors là, bah écoutez, c'est quand même la surprise de la semaine, puisque après un match globalement de bonne qualité, quoi, j'ai trouvé que c'était pas trop mal ce main event. C'était pas génial, mais c'était pas trop mal ce main event. Et suite à un hot tag, en fait, Strowman il rentre sur le ring, il défonce Karl Anderson, il lui place un running power slam. AJ Styles, il veut intervenir, mais Seth Rollins, il vient faire le sauvetage et il porte un curb stomp à AJ Styles, donc ce qui empêche AJ Styles d'intervenir au moment du pin. Et du coup, Braun Strowman, il en profite. 1, 2, 3, et mesdames et messieurs, we got new champions. Et là, on est quand même dans l'interrogation, en tout cas, me concernant, c'est le cas. On vient de filer le titre tag team de Raw à Strowman et Rollins. Alors là, Rollins, lui, son palmarès, il va falloir ajouter des pages, hein, parce que ça commence à devenir compliqué, le gars, tellement il accumule des ceintures. Ça commence à devenir assez incroyable. Strowman, il a eu très peu de titres, finalement très peu de ceintures, mais c'est toujours dans des circonstances assez rocambolesques. Et donc j'ai été quand même particulièrement surpris de ce traitement-là aussi. Alors je sais pas, en fait, je vous avoue les amis, je vais vous laisser, parce que moi j'arrive pas à déterminer un avis sur ça. Je trouve que c'est un peu dommage que les aussi perdent déjà si vite le titre, puisque le clan était en train de bien s'installer en tant que force dominante dans le show rouge. Et en même temps, Strowman Rollins est auteur du titre par équipe, ça va certainement créer des tensions, des rivalités, etc. au sein même du duo, et comme de toute façon Strowman il lorgne sur le titre universel, ils vont peut-être nous trouver quelques angles scénaristiques sympas pour développer une rivalité de bonne qualité. Peut-être qu'ils vont garder la ceinture que très très peu. Seth Rollins, il nous a déjà fait le coup, hein, d'avoir deux ceintures en même temps, donc c'est pas la première fois avec lui. Donc effectivement, peut-être que ce titre, ça va être un truc vraiment très transitoire, ou est-ce que ça va nous amener jusqu'à Clash of Champions, qui est quand même le 15 septembre, donc c'est quand même encore dans un petit moment, il va encore se passer des choses. Il va y avoir encore au moins 3 à 4 rows d'ici là. 3 à 4 SmackDown, enfin non, eux ils sont vraiment tout le temps carreaux, quoi. Donc peut-être que effectivement on va nous amener un développement peut-être sympa. Mais du coup, en tout cas, quoi qu'il arrive, Braun, il est champion par équipe, mais il complote dans sa tête, il complote pour savoir ce qu'il va faire, comment il va s'attaquer à cette Rollins et comment il va trouver le titre, quoi. Donc voilà comment se termine ce Raw du 19 août. Dans une globalement une belle ambiance à Saint-Paul à Minneapolis. Et on se retrouve à celui qu'on peut appeler maintenant Set to Bells. Je ne sais plus où j'ai lu ça, mais j'ai trouvé ça de bon aloi. Voilà, on a un Set to Bells après une Becky to Bells. Donc voilà comment se termine ce Raw. C'était un main event de qualité moyenne. Voilà. De, on va dire, j'aurais mis un, si je notais juste le main event, j'aurais mis un 3. Voilà, et la surprise du changement de titre en weekly, ça c'est un truc que j'aime bien aussi, donc du coup ça participe au fait que je lui donne un 3. Voilà, allez, et ben voilà, et ben mine de rien, on vient de parcourir tout ce show du 19 août, donc on arrive à votre rubrique préférée, notre top, notre flop et notre top et notre note et notre flop et notre top. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Bah écoutez, je vais vous dire que mon top, je vais le donner au démarrage du King of the Ring, aux deux matchs qu'en ont découlé. Et au fait que voilà, un tournoi au sein des weekly, ça c'est sympa. Moi, je suis vraiment vraiment fan de ça, vraiment client. Et du coup, je suis assez enthousiaste à ça. Donc, je vais donner mon top à ce démarrage de King of the Ring, et en espérant que sur tous les weekly jusqu'à la finale à Clash of Champions, on ait le droit à un beau tournoi King of the Ring avec un chouette vainqueur. Après, si je vous donnais mon favori, avant que Booker T parle, je vous aurais dit que c'était Drew McIntyre mon favori. Mais maintenant, en fait, je suis dans le doute. Le doute m'habite. Donc, pour l'instant, je vais m'abstenir sur ce Raw. Peut-être la semaine prochaine, je verrai plus clair et je vous donnerai au moment des quarts de finale, quand les quarts de finale seront acquis, je vous donnerai mon favori à ce moment-là. Mais mon favori du premier tour, c'était Drew McIntyre, en tout cas. Et on va voir comment ça se passe. Donc, mon top pour le démarrage du King of the Ring, et puis mon flop, j'aurais pu le donner à Jerry Lawler tellement je le supporte pas. Mais mon flop, je peux le donner aussi à Sasha Banks pour franchement cette promo que j'ai trouvée plutôt piteuse. Mais je vais le donner quand même au match tag team féminin, malheureusement, quoi, parce que moi j'aime bien la tag team division féminine. mais j'aime bien la division féminine en général de toute façon. Mais vraiment, ce match était vraiment pas bon. Mandy Rose est vraiment nulle dans le ring. C'est mon avis, hein, mais je le maintiens. Mais vraiment, Mandy Rose, elle est catastrophique au niveau ring, les amis, quoi, peuple de catch-up, merde. Riez-vous, regardez les choses en face, Mandy Rose, c'est pas possible dans le ring, c'est pas possible. Et puis voilà, et puis bah ma note, allez, ma note, et bah comme la première heure et demie a été vraiment sympa, The Fiend, etc., un main event surprenant, les deux matchs King of the Ring de bonne qualité, l'angle avec Orton, etc., allez, on va lui mettre un 3,25 cette semaine. L'euro cette semaine, pour moi, ça sera un 3,25. And that's the bottom line, cause Chris said so. Voilà, voilà, les amis. Allez, c'est l'heure de l'autopromo. Alors, avant de faire de l'autopromo, je vais faire un petit truc exceptionnel. C'est que je vais vous faire une petite annonce de catch, mais de catch français. Alors, pas exactement, je vais vous expliquer. En fait, je fais un peu de la pub pour mon département. Et sachez que le samedi 28 septembre, Corbeil-Essonne, il va y avoir un show de catch un peu particulier qui est organisé par la Wrestling Pro Essonne. Attention, ça rigole pas. Alors, il faut savoir que dans l'Essonne, il y a deux fédérations, plus ou moins. Il y a la Wrestling Pro Essonne et puis il y avait aussi la Wrestling Stars. Et depuis, je sais pas s'ils ont fusionné ou quoi. Mais bon, en tout cas, là, le show qui est organisé, qui va se passer le samedi 28 septembre, qui se passe à Corbeil-Essonne, donc je le répète, est organisé par la Wrestling Pro Essonne. Et si je signale ce gala de catch indépendant français, c'est parce qu'il va y avoir trois invités surprises, entre autres. Il va y avoir trois catcheurs américains que vous connaissez peut-être, puisqu'il va y avoir Eddie Ryan, qui, je crois, a fait des apparitions à NXT UK, entre autres, et peut-être à 205 Live. Il faudra demander à Ringside, il le saurait mieux que moi. Donc déjà Eddie Ryan, et surtout les deux autres noms, c'est que vous allez avoir à Brian Cage, oui, The Machine, va être à Corbeil-Essonne pour un show de catch. Imaginez le délire. Donc Brian Cage, et il va y avoir aussi Matt Cross. Alors pour Matt Cross, pour ceux qui connaissent pas, Matt Cross était le Son of Havoc de la Lucha Underground, qui était un catcheur que je trouvais génial et que du temps de la Lucha Underground, j'espérais un jour que la WWE le signe, mais ça s'est jamais fait. Et donc voilà, on va avoir ces trois gars-là qui vont être présents à ce gala de Corbeil. Et je pense que ça va être une toute première. Hein. Je pense pas que dans l'histoire du département de l'Essonne, un truc comme ça soit arrivé, qu'il y ait des catcheurs de cette ampleur-là, entre guillemets, bien évidemment, au niveau indie, qui viennent faire des combats dans le département. Donc, bah, je vous encourage à venir le samedi 28 septembre à Corbeil-Essonne. Et puis, bah, si vous cherchez un peu, vous trouverez peut-être votre serviteur qui sera certainement dans les gradins pour assister à ce gala. Voilà, donc ça c'était la page de promo pour un petit show de catch indépendant français. Et maintenant je vous fais l'autopromo voilà, classique que vous connaissez. Alors vous savez tous, hein, les amis du podcast Catch Up, quoi, voilà, il faut nous liker, il faut nous mettre des likes, il faut nous mettre des no likes aussi, même si vous n'êtes pas content là, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous pensez que Raw mérite qu'un 1 ou qu'un 2, eh ben, il faut hurler votre colère dans les commentaires. Et il ne faut pas hésiter. Donc voilà, mettez-nous des likes, aimez-nous, ne nous détestez-nous, mais soyez pas indifférents surtout. Et puis après, bah, vous nous retrouvez un peu partout, Facebook, Twitter, les cahiers du catch, Spotify, iTunes, iCloud, le Parisien, le journal du Dauphiné, le Républicain Lorrain, enfin on est, et catch-up, nous sommes partout, catch-up, nous sommes omniscients, les amis, omniscients dans le monde du catch, quoi. Donc bah, vous nous retrouverez pour une nouvelle review incessamment, en l'occurrence la review de SmackDown, et puis après bah, la rentrée va revenir, donc trouver tous vos commentateurs préférés, vos Giscal, vos IRM, vos Raphaël, voilà, tous ceux, vos Ringside, tous ceux que vous aimez tant et que vous suivez sur vos podcasts. Donc bah écoutez, bah, je vous fais plein de bisous, peuple de catch-up, je vous souhaite une belle fin d'été et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Oh là là, tout seul, tout seul.